Une seule chose nous tient à cœur, c'est l'amour. L'amour entre les lousolifiés, une seule chose nous tient à cœur, c'est l'union. L'union de tous les lousolifiés, une seule chose nous tient à cœur, c'est la paix. La paix entre les lousolifiés.
Ah, mes très chers et mes respectés, les gros des gros chefs, les gros calacas de la grande association de l'Orbe Européache, association de bienfaisance à caractère spirituel, association dont le président fondateur, Papa Guimi, le Foisit Kwabo, Miss Solamina Lavaki Ecolo, Boutoua Kwaralom de Kibosiba, Salabale, Batalabale, Mon Gabio, Vilibio, c'est mes salutations les meilleures, mes salutations cordiales, mes vives salutations, mes salutations plus distinguées, mes salutations fraternelles, mes papas, mes mamans, bébés, jeunes et vieux enfants du monde entier. Que l'Éternel nous bénisse tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 6 mai 2017. Il est 11h03, heure de Paris. Nous allons poursuivre notre thème, continuer notre thème de la fois dernière. Thème relatif à la fête de septième fête de Sabbat. Mais avant tout, nous allons demander à notre Dieu et Père au plus haut des cieux de nous orienter, de nous diriger, de nous canaliser, de nous soutenir tout au long de cette prédication par son Esprit. Que l'Éternel tout sa face vers nous, nous accorde la paix du corps, de l'âme et de l'esprit, la rémission de nos péchés et la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions. Mumasumumani manasari dingi tatanzambi ufuelandi kiari Mumasumumani manasari dingi o tatanzambi bika wandemvo kira kwani tatanzambi ufuelakiari Un fui la chiari meno mutu a masomo. Tatanzambi. Un fui la chiari. Passi voyato ma cusari la toto. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée. Le malade se rétablit. Le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour, accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de mort reprenne la santé, que mon cœur meurtri par des épreuves et des chagrins se gonfle d'un environnement. Je suis attentif à tes actes et à tes commandements. Ô mon Dieu, je t'invoque avec amour, pardonne mes erreurs et mes fautes, exauce ma prière. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Muna minga wacha muna vakulusi Tatanzambi bika wandemvokila Pasivo yakala mwana kukibeni Yansimbansiku miakuna tayekwele mvo Tatanzambi ufuila kiari Un fui la chiari meno monto a masomo. Tatanzambi. Un fui la chiari. Passivo yato ma cusari la toto. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. To sambela. To bondela. Beto sambileno. Prions. Ô Dieu le Père, trois fois saint, au plus haut des cieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, l'unique, le véritable Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, ô Dieu, oui, que ta volonté soit faite sur la terre, afin que s'établisse la vraie paix, ta vraie paix, oui, le vrai bonheur de l'Éternel sur la terre, la paix entre les hommes, l'union entre les hommes, l'amour entre les hommes. Ô Dieu, que ton règne vienne pour le bénéfice de l'humanité tout entière, car avec l'ennemi de l'âme, il n'y a que désolation, guerre, division. Ô le mal sur toutes ses formes aujourd'hui, Voici que le roi des ténèbres monte des abîmes pour prendre le pouvoir, pour prendre le contrôle du monde. Et les humains vont l'applaudir, car ils verront en lui le Messie. Oh, quelle situation digne de pitié, humanité ingrate et pécheresse, humanité aveuglée, humanité qui marche au milieu des ténèbres. Oh, votre ennemi, le pire ennemi de l'espèce humaine, va faire son apparition. Il vient pour une seule chose, entraîner l'humanité à la mort éternelle. Tous ceux qui vont s'allier à lui et à sa marque, tous ceux qui vont accepter sa marque, tous ceux qui vont se plier à lui, connaîtront la seconde mort, la mort éternelle, dans le feu qui ne s'éteint point. Ô femme, ô homme, ô vieux enfant, humanité, écoutez la parole de Dieu, écoutez l'appel de Dieu. Dieu annonce à l'humanité que les moments les plus difficiles de l'histoire humaine vont commencer. Oui, la purification de la terre va commencer. Oui, la tribulation annoncée par les apôtres, par les prophètes, va commencer. Car le temps qui est imparti pour le prince de ce monde touche à sa fin. Il ne veut pas aller seul. Ainsi, il mènera une guerre sauvage contre l'humanité, contre ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. C'est ici le combat, ô mes frères, le combat, ô mes sœurs, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut sortir des doctrines fausses, païennes, des doctrines basées sur le mensonge. C'est maintenant qu'il faut embrasser la vérité, qu'il faut revenir à la vérité. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de l'esprit. C'est l'heure où les vrais adorateurs de Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est l'heure de sortir des loges. C'est le moment de sortir des maisons mystiques. C'est le moment de sortir, oui, du mal sur toutes ses formes. C'est le moment, oui, de prêter, de renouveler son serment à Dieu le Père par le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Guillaume, le Foisset de Quabon, le Dieu de l'humanité tout entière sans distinction de couleur, de langue, de race, de religion. Viens au secours de l'humanité. Ô Dieu, fais une grâce, un don à cette humanité. Réveille-la au plus profond d'elle, afin qu'elle se rende compte qu'elle t'appartient, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable, l'unique, au plus haut des cieux. Pongotulendo. Ô Dieu, montre tes prodiges à tes serviteurs. Montre tes bienfaits à l'humanité. Donne toute ta chance à toutes les familles du monde entier afin qu'ils te connaissent, ô Dieu, sans distinction. Ô Dieu, donne la chance, ô Dieu, aux pécheurs qui se répandent. Nous te remercions, ô Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Tatanzambi, ufuira kiari, ufuira kiari meno muto wa masomo. Tatanzambi, ufuira kiari, pasivo yato makusari la toto. Muna menga wacha muna vakulusi. Tatanzambi, bika wande mvokila. Pasivo ya kala mwana kukibeni. Ya simban siku, mia kunata ye kwelevo, ma tondo ma kwe mfumwe, ma tondo ma kwe, ma tondo ma kwe mfumonzam, ma tondo ma ku, ma tondo ma kwe mfumu, ma tondo ma kwe, ma tondo ma mfumonzambi, ma tondo ma ku.
Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu'à vous, notre aide. Et dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu'à vous, notre aide. Et dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu'à vous. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous.
Tini kurana fumwe, tini kurana fumunzam, tini kurana, matondo makwe fumwe, matondo makwe, matondo makwe fumunzam, matondo maku, mengenzololo fumu, mengenzololo, mengenzololo fumunzam, mengenzololo. Lolo, menge ni salila fumwe, menge ni salila fumunzambi, menge ni salila. Matondo makwe fumwe, matondo makwe, matondo makwe fumunzambi, matondo maku.
Eh bien, mes bien-aimés, nous avons parlé de l'institution de la fête du 7e fête de sabbat par note circulaire 116 du 18 novembre 2001, n'est-ce pas, qui dit que dans la nuit du mercredi 14, donc c'est la nuit du mardi 13 au mercredi 14 novembre 2001, à 4h45 du matin, le grand maître Guy-Émile Le Foissé de Quabo a reçu de l'organisation PH le message suivant. Le peuple de Dieu célébrera la fête de septième fête de sabbat en l'honneur de l'Éternel. Et nous avons lu quelques passages bibliques ici dans celui de Deutéronome 5 verset 15 qui dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, Deutéronome 5, verset 15 ici. Voyez. Et nous avons parlé de ce peuple-là. De quel peuple s'agit-il, hein? Donc, nous avons vu dans le passé, c'était la première nation. On a bien expliqué que c'était les enfants d'Israël qui étaient en servitude en Égypte. Voyez, et que Dieu est venu au secours de ce peuple. Il a suscité Moïse, un guide, n'est-ce pas, parmi eux, pour les faire sortir de cette servitude, n'est-ce pas, et les conduire vers la terre promise. Donc ça, c'était une histoire concernant la première nation, n'est-ce pas? Eh bien, ici, il s'agit de la deuxième nation. La deuxième nation, c'est quoi? Donc, nous avons tout expliqué, la deuxième nation. Donc, la deuxième nation, c'est cette nation-là de la fin de Dieu, que Dieu va susciter à la fin, n'est-ce pas? Et cette deuxième nation vient de lui-même, lui-même étant la base de ça. Voyez-vous ici, hein? C'est ce qu'il a dit à Pierre. Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, pierre est une pierre temporaire qui passe, n'est-ce pas, hein? Mais la vraie pierre, c'est lui. C'est qui? C'est le Christ. N'est-ce pas, qui est la vérité? Parce que Pierre avait dit la vérité au Christ, hein? Que tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Vous voyez? Et le Christ lui a dit, eh bien, Pierre, c'est sur cette pierre, donc c'est sur cette parole, c'est sur cette vérité, n'est-ce pas, que je bâtirai mon église, c'est sur moi-même que je bâtirai mon église, parce que moi, je serai cette pierre-là, ce fondement-là. Mais il n'est pas seulement cette pierre, mais il est aussi l'église, les deux en même temps. Voyez-vous, La pierre ici, c'est un fondement. Donc, c'est la première nation ici. Hein? Nous avons vu autrement, hein? Que la pierre, c'est un fondement ici. C'est le Christ, hein? C'est sur cette pierre, si vous voulez aussi, que viendra reposer la vérité. C'est la même chose. La vérité, c'est le Christ. Vous voyez, ce sont des tournures, ici. Hein? Christique, pour tout simplement dire qu'il est incontournable. N'est-ce pas? Il est ce corps-là, cette deuxième nation, c'est lui-même. Vous voyez? C'est lui-même. Lui-même, mais qui vient d'Israël. Lui-même qui est le fondement. Qui est cette pierre-là, voyez? Et sur cette pierre, il vient mettre les nations, n'est-ce pas? Voyez-vous ici, le salut est universel. Le salut sort d'Israël pour aller embrasser les nations. Et ce sont les nations qui vont venir, n'est-ce pas? La vérité va envahir, la vérité va pénétrer, la vérité va s'introduire dans les nations. Et il va faire des nations, mais des chrétiens. Des enfants de Dieu, au même titre que les enfants d'Israël. Et donc, c'est le Christ qui fait tout ça. Voyez-vous ici, la deuxième nation, c'est lui-même. Et nous avons vu plus tard que sa deuxième nation, eh bien, c'est son corps, tout simplement. C'est le corps humain qu'il a pris. C'est une nouvelle humanité, dont la base est Israël, et le reste, mais les nations. Voyez-vous ici, hein? Donc voilà ce peuple qui doit célébrer la fête de cette septième fête de sabbat. C'est le corps du Christ. Ce corps du Christ qui est la deuxième nation. Nous avons vu, lorsque nous avons fait la prédication sur la Pâque, que ce corps-là devait être tué parce que ce corps va porter une humanité pécheresse. Mais lui, le Christ, il n'est pas pécheur. Mais comme il a porté l'humanité pécheresse, mais il fallait que ce corps la passe par la mort. Mais à proprement parler, voyez, je vous ai dit que le Christ n'a pris le corps humain que pour le léguer à l'humanité. C'est un nouveau corps qu'il prend, n'est-ce pas, pour donner à l'humanité. Voyez, mais il est Dieu, lui, voyez, hein? La mort a un sens que lorsqu'on parle de l'humanité, lorsqu'on parle de l'homme, c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui a fauté, le péché originel, c'est l'homme qui l'a commis. Voyez, donc le Seigneur ne vient que ici donner un nouveau corps à l'homme. Il l'introduit dans une nouvelle créature ici, n'est-ce pas? Il fait de l'homme, si vous voulez, une nouvelle créature. Mais c'est lui-même qui se donne, c'est lui-même qui prend, voyez-vous, le corps humain ici. C'est lui-même qui façonne ce corps humain. Parce qu'il y habite lui-même, n'est-ce pas? Il fait la volonté, sa volonté, parce qu'il est le créateur dans ce corps-là. Donc il éduque ce corps-là, afin que ce corps-là mais soit à l'image et à sa ressemblance, soit à son image et à sa ressemblance. Donc il refait tout simplement le premier homme. Vous voyez, hein? Il le refait, il le refaçonne. Vous voyez? Et à il faut aller chercher donc ce premier homme et le mettre dans le nouveau. Voyez-vous ici, hein? D'où, ben, il faut, comme disait l'apôtre Paul, il faut que ce corps-là, n'est-ce pas, corruptible de l'homme qui a péché, mais meurt, soit enterré, hein, symboliquement, afin qu'il germe incorruptible. Donc c'est ici le chemin. Voyez, c'est par la mort que tout homme doit passer pour renaître de nouveau, n'est-ce pas? La mort ici est une façon de se dépouiller, d'enlever les souillures, la corruption, n'est-ce pas? De déposer ça sous la terre, afin de germer incorruptible. Donc voyez-vous ici le corps du Christ, si il est passé par la mort, c'est un prélude, hein? C'est pour préparer, n'est-ce pas, l'humanité de la fin, voyez? Cette humanité ne peut devenir une nouvelle humanité qu'en passant par la mort et par la résurrection. Donc c'est le chemin obligé. Il a tracé le chemin par lequel l'humanité tout entière obtiendra le salut final. Donc c'est par la mort et par la résurrection. Donc l'humanité aussi doit porter la croix. L'humanité doit passer aussi par le mont du Golgotha. N'est-ce pas? L'humanité doit aussi connaître Eh bien, la persécution, la souffrance, la trahison, n'est-ce pas? La mort et la résurrection. Voilà le chemin qu'il a tracé. Donc, c'est le chemin par lequel il a fait passer son corps. C'est le chemin que son corps, n'est-ce pas, qu'il a pris, hein, par lequel ce chemin, ce corps est passé pour monter. Mais la finalité, c'est que la nouvelle humanité est déjà montée, puisque le corps du Christ est monté. Il ne reste qu'à déverser dans ce corps cette humanité pécheresse. Donc le péché va être ôté, mais à condition que l'humanité passe par le même chemin que le corps du Christ. Bref, nous avons vu toutes ces choses-là. C'est juste un petit rappel de ce que nous avons dit lors des prédications précédentes concernant la Pâque. Bien, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous voyez que ce peuple-là, nous avons dit à la fin, ces deux personnes, n'est-ce pas, prophétiques principales, parce qu'ils ont été enlevés, n'est-ce pas? Donc ça préfigure, hein, eh bien, la situation finale. La situation finale, c'est l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? C'est l'enlèvement de la deuxième nation. C'est l'enlèvement de la nouvelle humanité. Donc l'humanité doit être enlevée, mais l'humanité ne sera pas enlevée avant qu'elle passe par le même chemin que le corps du Christ, que le Christ, si vous voulez, tout court, n'est-ce pas? Que le Christ fait chair. Vous voyez? Donc l'enlèvement ne viendra pas avant ces événements-là, avant la souffrance, avant la tribulation, n'est-ce pas? Mais avant la mort et la résurrection. Donc il faut que le corps, l'humanité, passe par la mort et la résurrection pour devenir une nouvelle humanité. D'où cette histoire des deux témoins ici. Donc vous avez vu deux témoins. Le premier, nous avons dit que c'était Élie, Enoch, vous voyez, sur ordre. Donc Enoch, c'est la première génération. Donc c'est la génération antédiluvienne. Et Élie, c'est la deuxième génération. Vous voyez ici, hein? Ça c'est d'après l'histoire que nous connaissons, hein? On va pas polémiquer. Vous voyez que les deux ont eu une mission de prophétiser, n'est-ce pas? Enoch, au milieu des nations ici. Donc des enfants de Caïn, n'est-ce pas? Des enfants de Caïn. Il a prêché au milieu d'eux. Donc c'était un prédicateur par excellence. Et c'est le père fondateur de Sion. Oui, oui. Ah, la ville sainte, lorsque vous entendez, ville sainte, ville sainte. Mais le père fondateur de la ville sainte, que Dieu a agréé, que Dieu a accepté, que Dieu a enlevé avec ses habitants, c'est Enoch. Donc c'était un grand prophète, n'est-ce pas? Un grand scribe, n'est-ce pas? Il n'y en a pas d'égal à lui. Et le deuxième, c'est Élie que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc les deux avaient une mission spéciale. Élie au milieu d'Israël. Pourquoi au milieu d'Israël? Je vous ai expliqué. À cause de la présence de Satan ici. Satan au milieu du peuple choisi par l'Éternel. Satan s'est établi, n'est-ce pas? Et Satan vient pour la contre-église. Satan vient pour contrer Dieu au milieu de son propre peuple. Satan vient prendre le peuple de Dieu en otage et le dresse contre l'Éternel. C'est ça. Et donc l'Éternel, contre cela, envoie Élie. Vous voyez ici la mission d'Élie. Vous voyez? C'est au sein même d'Israël. Alors que la mission d'Enoch était au milieu des païens, des descendants de Caïn, qui sont les païens. Voilà le vrai sens du mot païen. N'est-ce pas? Vérité divine de l'heure oblige. Donc l'Apocalypse parle de ces deux témoins-là qui vont être mis à mort. Eh bien oui, si vous m'avez suivi depuis le début, depuis que je viens de commencer la prédication, vous allez comprendre pourquoi ce peuple-là, ces deux témoins doivent être mis à mort. Vous voyez, c'est le chemin tracé par le Christ. C'est le chemin de la mort et la résurrection. Et on le voit bien dans l'Apocalypse 11, la mort et la résurrection des deux témoins. N'est-ce pas? À la similitude du Seigneur, sa mort et sa résurrection. Mais la mort est précédée par la persécution ici. Vous voyez ici? Et le peuple de Dieu connaîtra la place, la tribulation. Dans la tribulation, il y a tout ça. Vous voyez? Et c'est une des persécutions les plus barbares, les plus sauvages, voyez-vous ici, et qui sera perpétrée par l'ange qui monte de l'abîme ici, vous voyez, hein, l'ange qui monte de l'abîme ici, qui est le chef du gouvernement, mais de Lucifer en personne, hein, de Satan, quoi, c'est Satan, mais qui viendra prendre les règnes, n'est-ce pas, et persécuter les deux témoins, qui à la fin, si vous m'avez bien suivi, sont respectivement Israël, voyez ici, et les nations. Israël et les nations, n'est-ce pas? Israël, le reste, le résidu dont je vous ai parlé, qui va prier Dieu sincèrement, voyez, et qui va accepter le Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Vous voyez, sera persécuté, c'est-à-dire les vrais juifs, hein, ceux qui vont accepter le Seigneur et Sauveur, ou ceux qui prient Dieu en esprit et en vérité, les vrais, les véritables juifs seront persécutés et mis à mort. Et à leur suite, les chrétiens, hein, les chrétiens, parce qu'ils viennent des nations, donc. Ce peuple-là qui vient des nations, des païens, n'est-ce pas ici, qui sera mis à mort, ce seront en majorité les chrétiens. Oui, donc les chrétiens et les juifs, les deux témoins. Hein, ce sont les chrétiens et les juifs qui seront mis à mort. Donc ce sont les chrétiens et les juifs qui forment le peuple final, cette deuxième nation. Je répète, cette deuxième nation, ce sont les juifs et les chrétiens qui la forment. N'est-ce pas? Vous voyez que c'est une situation tout à fait finale. Voyez-vous, ici, il va se dresser, ici, deux humanités, deux parties, deux camps au milieu de l'humanité. Il y a un camp qui va opter pour le diable. Donc, ils vont suivre l'antéchrist, ils vont l'applaudir, n'est-ce pas? Il y a un camp qui va s'opposer à cela, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui vont rester fidèles à la vraie Église, fidèle à Dieu, qui va opter pour Dieu. Donc je reprends, il y aura deux catégories d'humanité, deux sortes. Une humanité qui va opter pour Dieu et une humanité qui va opter pour le diable. Alors, cette humanité qui va opter pour Dieu saura que ce Dieu-là est venu dans la chair, on l'appelait le Christ, voyez-vous ici. Ils sauront, parce qu'il y aura des signes et des prodiges au niveau céleste qui montreront que ce Dieu-là, qui s'est fait chair, ce Dieu-là, c'est celui qui s'est fait chair et qu'on appelait le Christ. Donc l'humanité saura. Il y aura le vrai Christ et le faux Christ. Donc il y aura le vrai Christ et l'antéchrist. Et en ce moment-là, l'humanité fera le choix de Dieu, le véritable Dieu, qui est le Christ. Donc l'humanité saura que Jésus-Christ, c'est pas un homme vulgaire, mais Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, en puissance, Dieu. Car l'humanité sera devant l'évidence que le Christ en question est Dieu pleinement. Donc il y en a qui vont opter pour le Christ, le vrai. Par contre, il y en a qui vont s'opposer à ce Christ-là, donc ils vont opter pour l'antéchrist. Donc il y aura le vrai et le faux. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est la situation finale. Hein? Et alors, ceux qui auront opté pour le vrai Christ seront persécutés. Et parmi eux, n'est-ce pas, il y aura les Juifs. Vous voyez? Donc dans toutes les nations, il y aura des âmes qui vont opter pour le vrai Christ. Vous voyez? Et alors, ils seront des chrétiens. Vous voyez? Et il y aura aussi des Juifs qui vont reconnaître en Christ Jésus, le Messie, le Dieu d'Abraham. Eux aussi seront des chrétiens, quoiqu'étant juifs. Voyez-vous, cet ensemble de chrétiens dont la base est Israël, c'est celle qu'on appelle, cet ensemble, c'est celui qu'on appelle la deuxième nation. Frères et sœurs, comprenez ça très bien. Hein? La deuxième nation, c'est la situation finale. La deuxième nation, elle sera visible qu'après la moisson. Peut-être pas encore la moisson, après la séparation. Voyez-vous ici, hein? Lorsque il viendra la séparation. Hein? Donc il y aura d'abord, le ciel donnera le choix à tout être humain de choisir, donnera le temps. N'est-ce pas? Excusez-moi. Tout être humain va choisir de quel côté il veut aller, n'est-ce pas? Mais une fois que cela est fait, vous voyez, il y aura la persécution. Donc, ceux qui ont opté pour l'antéchrist vont persécuter ceux du vrai Christ. C'est ça qui est relaté. Hein? L'histoire de deux témoins, c'est ça. Vous voyez. Et alors, eh ben, ils les mettront à mort parce qu'ils auront à leur tête l'ange hein, qui monte de l'abîme, la bête qui monte de l'abîme, etc. Hein, les termes apocalyptiques à son sujet, c'est tout simplement le roi des ténèbres ici. Bon, on va l'appeler Satan tout court. Donc Satan ou le diable va incarner, il va sortir et il va être à la tête, n'est-ce pas, de cette humanité qui va se rebeller contre Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez que cette rébellion contre Dieu va se traduire par la persécution des enfants de Dieu, de ceux qui ont accepté Dieu. Vous voyez ici. Donc, d'où vous voyez ça? Les deux témoins en question, c'est ça. Donc, c'est l'ancien Israël ici qui va reconnaître le Christ comme étant le Messie, comme étant le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ils vont le reconnaître à la fin. Donc, c'est un résidu, vous voyez ici, d'Israël, qui va reconnaître, n'est-ce pas? Et les nations qui vont reconnaître. Donc, tout homme, vous voyez, qui va reconnaître Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur. Vous voyez, tout ça, ça va rentrer ensemble, n'est-ce pas? Et ça formera les chrétiens de la fin. Les chrétiens de la fin égale les juifs, Israël, plus les nations. Hein? C'est-à-dire tout homme qui va confesser Jésus comme étant Dieu, Seigneur et Sauveur. Donc, parmi les chrétiens aussi, vous avez toutes les organisations chrétiennes, n'est-ce pas? La chrétienté, le christianisme, comme vous voulez. Mais ça, ça sera du vrai, n'est-ce pas? C'est du pur et vrai christianisme, n'est-ce pas? Ce sont les vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité qui vont se démarquer des autres, n'est-ce pas? Il n'y aura plus au sein des églises, au sein des communautés chrétiennes, ceux qui trompent Dieu parce qu'ils auront fait le choix, n'est-ce pas? Il y aura séparation, n'est-ce pas? Tous ceux qui se cachent dans les églises, et qui servent Satan en cachette, mais seront démasqués. Ils n'auront plus leur place dans la nouvelle église qui vient. Ils n'auront plus leur place au milieu des vrais adorateurs de Dieu. Parce que ça sera ainsi. Donc, il y aura séparation. Alors, quand il y aura séparation, ceux qui vont opter pour l'adversaire du Christ, ils vont se ranger derrière lui pour combattre leurs frères. Donc, au sein d'une même famille, mais vous verrez qu'il y aura division au sein de la même famille. Vous allez vous rendre compte que tous, vous n'avez pas forcément vos noms dans le livre de vie, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que vous êtes nés de même père et d'une même mère, mais spirituellement parlant, vous êtes opposés. Vous allez voir ça. C'est pour ça que le Christ est dit qu'il y aura division entre le père et le fils, entre la mère et la fille, etc. La société va être scindée en deux, n'est-ce pas? Et cela va arriver, n'est-ce pas? Ceux qui servent Satan en cachette ne vont plus se cacher, n'est-ce pas? Ils se montreront. Tout ce qui est caché sera révélé. Et alors, il va y avoir deux sortes d'humanité. Une humanité acquise à Dieu. C'est ça qu'on appelle finalement la deuxième nation. Et une acquise à l'ennemi, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, il y aura deux camps, pas trois. Oui, il y aura plus des gens qui vont jouer, qui vont être à califourchant, qui vont être à cheval, n'est-ce pas? Entre les deux, il y aura plus, n'est-ce pas? Ou soit t'es chaud ou t'es froid. Dieu ne prendra plus les tièdes, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc, il y aura cassure. séparation, division. Et ainsi, ceux qui auront opté pour Dieu seront ceux qu'on va appeler les deux témoins. Pourquoi deux témoins? Je vous ai expliqué là. J'ai encore donné des détails afin que vous puissiez comprendre. Deux témoins, je reprends encore pour que ça rentre une bonne fois pour toutes. Deux témoins, c'est la première nation résiduelle, n'est-ce pas? Ça, c'était la première nation résiduelle. Dieu l'a rejetée parce qu'ils ont rejeté le Christ. Donc, la condition sine qua non pour que la deuxième nation puisse faire partie de la pour que la première nation puisse faire partie de la deuxième nation et que cette première nation puisse reconnaître le Christ comme étant le Messie, le Seigneur et Sauveur, et Dieu réellement créateur. Vous voyez? C'est ça. Donc, sortir de la première pour rentrer dans la deuxième, c'est ça. Vous voyez? Donc ça, c'est là le premier témoin qui est ici symboliquement représenté par Élie. Donc, Israël. Et le deuxième témoin, c'est les nations. C'est-à-dire, c'est tout homme, mais non en dehors d'Israël, qui accepte le Christ comme étant le Seigneur et Sauveur, et qui le prie en vérité, et en esprit en vérité, qui le confesse, n'est-ce pas? Qui prononce son nom, etc., voilà, qui vont opter pour lui. C'est tout homme ici, en dehors d'Israël. Tout homme. Vous voyez? Ceux-là, ce sont ceux qui font partie de deuxième témoin. Donc, vous voyez que le deuxième témoin, ça a commencé par les chrétiens actuellement. Mais nous sommes encore dans le système de la première nation. Parce que le système de la deuxième nation, ça viendra après le filtre. Donc il faut qu'il y ait un filtre pour qu'on voit la deuxième nation. Donc Guillaume le foi, c'est quoi beau, est celui qui conduit cette deuxième nation. Autrement dit, c'est lui qui a le corps du Christ dans lequel, mais il faut mettre, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là qui optent pour le Christ à la fin. Après le filtre, il prendra les gens, il les mettra. C'est pour ça qu'il nous a préparé longtemps à l'avance, pour que spirituellement parlant, nous soyons, mais du Christ, spirituellement parlant, nous soyons dans ce corps-là déjà. Donc c'est un privilège déjà, n'est-ce pas? On nous a ouvert les portes, nous, n'est-ce pas? Donc il nous a introduits dans ce corps-là, longtemps à l'avance, avant le filtre. Et il a voulu que nous puissions y demeurer, n'est-ce pas? Afin que lorsque le filtre arrivera, lorsque la souffrance arrivera, ce ne sera qu'une formalité pour nous. Vous voyez, ce serait très facile pour nous, n'est-ce pas, de réussir tous ces examens, toutes ces épreuves, parce que nous sommes déjà dedans. C'est pour ça qu'on nous appelle membres de l'OPH, c'est-à-dire membres de ce corps-là. C'est que nous y sommes. Il nous a introduits dedans. Mais parmi nous, vous voyez, qu'il y a des descendants d'Israël, n'est-ce pas? Les peuples perdus d'Israël parmi nous. Donc nous sommes d'Israël par le sang. Vous voyez? Ces Hébreux-là du passé, c'est ce peuple-là. Hein? Donc, il nous a fait rentrer déjà. Il nous a fait sortir de la première pour nous faire rentrer dans la deuxième. Vous voyez? Il l'a fait. Hein? D'où il y a des sacrifices, on va en parler. Hein? Il faut que tout soit poulé. Il faut que tout soit ouvert. Il faut que tout soit expliqué aux frères et sœurs afin qu'ils comprennent, n'est-ce pas, la mission, quoi, clairement. Vous voyez? Donc, cette association, le Zolo-Amour, cache derrière mais le corps du Christ. Quand il dit, c'est l'habit de l'OPH. Mais oui, mais il explique bien que l'OPH, c'est Jésus. Donc, cette association-là, c'est le corps. Si tu es dedans, c'est que tu es déjà dedans. C'est que tu fais partie de cette deuxième nation. Puis c'est ça, la deuxième nation. C'est ce corps-là. Vous voyez? Mais, il faut que nous puissions passer par la mort. Hein? C'est-à-dire par les tribulations et la résurrection. Voyez-vous ici? Donc il faut que nous soyons renouvelés, finalement. À la fin. Mais il est mieux déjà d'être dedans, d'avoir son nom, hein? Inscrit dans le livre en question. Il est mieux de faire partie déjà de cette deuxième nation à venir, maintenant. Donc c'est mieux de comprendre les choses maintenant. Afin que quand ces choses-là vont arriver, la tribulation va arriver, eh ben on saura où aller. Et on saura que faire, n'est-ce pas? Lorsque le vrai Christ et le faux Christ seront mis devant vous, vous saurez où aller. Mais si vous n'avez pas ces informations, si vous n'avez pas cette prédication, cette explication des vérités divines de l'heure, C'est très difficile que puissiez savoir où on va et ce qui se passe dans le monde. Vous voyez ici. Donc vous voyez comme la deuxième nation est en gestation, n'est-ce pas? Mais Satan aussi va susciter sa nation à elle, qu'on appelle symboliquement ici. C'est le dragon, quoi. Si vous voulez, le dragon. La bête, hein? La bête, c'est comme vous voulez, hein? C'est deux fois Babylone la Grande. Il y a des expressions comme ça pour vous montrer une prostituée, hein? Ici. À l'opposition, à l'opposé de l'Église. L'Église ici qui est une femme, hein? L'Église est une femme. À l'opposé de cette femme radieuse, de cette femme pure et très sainte, c'est-à-dire la mère du Christ. À l'opposé, vous avez aussi une mère, la mère de l'Antéchrist ici, mais qui est une bête, hein? Qui est une bête ici. Donc vous voyez ici, hein? Qui est une bête. Vous voyez, donc le Satan aussi va susciter, hein, une organisation à lui, où il va regrouper tous ceux qui vont l'accepter comme leur Dieu, n'est-ce pas? Donc il y aura un vrai Dieu et un faux Dieu. Voyez, mes frères et sœurs. Donc voilà en gros ce que je voulais rajouter. Mais on n'a pas fini sur les deux témoins ici. Alors lorsqu'on vient, donc je vous ai parlé du passé, tout au moins, de la première et la deuxième génération. Mais ce n'est pas fini, hein, vous voyez, que lorsqu'on arrive au moment du Christ, au temps du Christ, après sa mort et sa résurrection, le Christ rappelle, refait cette histoire, n'est-ce pas? Tout au moins, il fait continuer l'histoire des deux témoins, n'est-ce pas? Ou au moins, il est précise, il dit, n'est-ce pas, la source de ces deux témoins, n'est-ce pas? Donc cette histoire nous est rappelée encore par le Christ. Ou cette histoire, si vous voulez, tout simplement, est exécutée, n'est-ce pas, par le Christ en personne. C'est le Christ en personne qui vient jouer ici le rôle principal dans cette histoire de témoins. Donc c'est lui-même, hein, qui prend. C'est lui-même les deux témoins. Parce qu'il vient d'Israël et des nations, n'est-ce pas? Il vient d'Israël et il part vers les nations aussi, on se dit ainsi. Il est descendant d'Israël, mais son but, c'est de prendre la passerelle par Ismaël pour aller vers les nations. C'est ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Vous voyez ici, n'est-ce pas? Donc il va susciter deux témoins principaux ici, qui est Pierre, vous voyez ici, hein? Pierre. Et Paul. Vous voyez, Paul, Saul de Tarse, a une mission vers qui? Hein? Saul de Tarse, Paul. Paul a une mission vers qui? Mais vers les païens. Et Pierre, vers les juifs. Vous voyez ici. Donc c'est lui qui éclate la mission, n'est-ce pas? Donc c'est lui-même, puisqu'il monte vers le Père, donc il confie la mission à ses deux serviteurs, Pierre et Paul, pour qu'ils puissent aller vers les nations. N'est-ce pas? Donc ici aussi, vous voyez, Jésus nous rappelait encore les deux témoins, en suscitant Pierre et Paul. Hein? Donc c'est l'histoire de son peuple. Son peuple, c'est son corps. Voyez-vous ici, c'est son corps qui l'éclate. Il dit, bon, je vais susciter Paul. Paul, c'est qui d'abord? Vous voyez? La base est toujours Israël. Paul, c'est un Israélien, c'est un juif. Pierre aussi, un juif. Mais attention, Paul est un citoyen aussi païen, romain. Il est un citoyen romain, donc il a un pied dans chez les païens. Voyez-vous ici, hein? C'est ça la mission, voyez. La mission. Vous voyez, à l'instar d'Abraham, le père Abraham, ici, on lui dit d'aller où? On lui dit d'aller dans le pays de Canaan. Donc c'est un pays des païens. Ici, les Cananéens, ça fait 7 peuples ici. 7. Hein? Et il est arrivé qu'il y ait, il y a eu un litige, un problème entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Abraham n'a pas voulu qu'il y ait, n'est-ce pas, dispute, hein, conflit entre lui et son neveu Lot. Donc il a demandé à Lot, de se séparer à l'amiable, n'est-ce pas? De faire le choix, puisque la terre que Dieu allait donner à Abraham est vaste ici. Vous voyez, c'est le pays de Canaan. Et parmi, sur cette terre de Canaan, il y avait aussi des Phénéziens, on les appelait. Vous voyez ici, les Phénéziens, les gens de Sodome, là. Hein? Et Lot a préféré aller vers eux, parce qu'il a vu. C'est toujours la richesse, la beauté, le truc. Il a préféré aller là. Abraham l'a laissé. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont tous rentrés dans le pays de Canaan. Donc, Lot a choisi les Phériziens. Excusez-moi. C'est les Phériziens, il a choisi. Les Phériziens. Abraham, Dieu lui a dit, mais tiens, je te donnerai le pays de Canaan, un peu vers la mer là-bas, dans les terres profondes. C'est l'actuel Israël. Donc aujourd'hui, vers la fin, voyez aussi que ce peuple-là sera reconstitué. Voyez, ce peuple-là, qu'on appellera tout simplement les Cananéens. Ce sont des peuples païens au milieu duquel Dieu envoie qui? Abraham! N'est-ce pas? Donc le salut, ici, c'est Abraham qui l'apporte au milieu des païens. C'est ça l'histoire. Donc c'est ça que Jésus vient finaliser. Oui, Jésus ici, il vient finaliser cette histoire-là, qui est passée par Moïse et tout. C'est le même ici, c'est la même histoire que Dieu nous rappelle à la fin ici. N'est-ce pas? C'est la même histoire. Quel était l'objectif? Pourquoi Abraham est sorti dur de Chaldée? N'est-ce pas? Pourquoi Abraham est sorti de là-bas? Et Dieu l'a fait sortir de là-bas. Eh bien, pour qu'il aille quelque part. Où? Mais sur la terre de Canaan. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Quel est le projet de Dieu? Se faire connaître au milieu de ces peuples-là. Donc ces peuples-là sont quoi? Mais perdus, Ces peuples-là sont occupés par le diable. C'est le diable en personne qui les occupe, n'est-ce pas? C'est le diable qui règne par leur roi, n'est-ce pas? Donc c'est le règne du diable qui est au milieu de ce peuple-là. Dieu envoie Abraham au milieu de ce peuple pour les sauver, n'est-ce pas? Vous voyez ici, et pour dégager Satan qui est au milieu d'eux. Vous voyez, mes frères et sœurs, d'où il y a l'Égypte et Sodome, ce que vous lisez dans l'Apocalypse 11, on vous parle d'Égypte et Sodome. Donc je vais lire cette partie-là pour que les frères et sœurs comprennent cette tournure-là prophétique. Je ne l'ai pas sous les yeux, ici, l'Apocalypse 11, qui vous parle de la place où seront tués, exposés le corps des deux témoins, n'est-ce pas? Donc on vous dit qu'il y a un sens spirituel à cela. On vous parle symboliquement de Sodome et Égypte, n'est-ce pas? Donc c'est dans le sens spirituel qu'il faut comprendre. Donc, je viens d'expliquer là, tout à l'heure, pourquoi Abraham a été envoyé pourquoi Abraham a été envoyé dans le pays de Canaan, je viens d'expliquer. Donc, c'est pour sauver, c'est la mission de l'Éternel, le salut. Pour que le salut soit sur l'humanité tout entière, il faut dégager le diable. Mais le diable a pris place. N'est-ce pas? Au milieu du peuple qu'on appelle Canaan, n'est-ce pas? Voyez-vous ici? Vous voyez qu'à la fin, ce peuple-là va se reconstituer. Donc c'est sûr que vous trouverez Sodome et Égypte au milieu d'eux. Pourquoi Égypte? Pourquoi Égypte? Il faut connaître l'histoire d'Égypte. L'Égypte est qui? Vous voyez, c'est une histoire qui est liée à Canaan aussi, Bon, on aura le temps d'en parler. Donc, des symboles, hein? L'Égypte, en gros, si vous voulez, c'est le symbole de la puissance, mais de Satan. Voyez-vous ici, lorsque les enfants d'Israël sont en Égypte, eh bien, quel est le pouvoir qui les a sujettis? C'est le pouvoir de Pharaon. Mais c'est lequel, ce pouvoir-là de Pharaon? Pharaon, au temps des enfants d'Israël en Égypte. Qui est-il? C'est ça la grande question. D'où est-il originaire? Réellement. Si vous cherchez, vous trouverez. Vous trouverez des choses extraordinaires. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Vous voyez que l'Égypte, c'est le symbole de la puissance. Ça montre la puissance de Satan. C'est Satan qui exerce sa puissance contre le peuple de Dieu. Contre Dieu. Hein? C'est l'Égypte devient ici le symbole de la puissance satanique. Donc, on apprend Égypte, on associe Sodome. Hein? Donc, les deux ici, vous voyez, nous donnent une explication lorsqu'on dit que c'est dans le sens spirituel qu'il faut comprendre, cette place-là. Et en plus, c'est une place où les deux corps seront exposés. Bon, mes frères et sœurs, c'est pas difficile. Sodome, voyez, vous savez que c'est l'un des peuples du Canaan. Donc, c'est une indication, n'est-ce pas? C'est une indication vers quoi? Vers où se trouve ce peuple-là, hein? Mais vers où ce système-là s'est établi? Le système de Sodome, vous connaissez. La méchanceté, tout ça, vous voyez, hein? Vous voyez aujourd'hui ces œuvres-là être multipliées dans le monde. Voyez ici, ces œuvres-là sont multipliées de Sodome. Hein? C'est ce pourquoi ils ont été effacés, n'est-ce pas? Par l'Éternel, supprimés par le feu, à cause de ces relations contre nature que vous connaissez ici. Voyez? Mais ils étaient où ce peuple-là? Vous voyez? Mais à Canaan, on dit. Hein? Donc ça, ce peuple-là fait partie des sept qui sont ensemble, qui cohabitent ici. N'est-ce pas? Mais vous voyez que ce système-là va s'établir à la fin. Vous aurez un grand système qui va se mettre en place. C'est-à-dire ces peuples-là qui vont s'unir et bâtir un gros système qu'on appelle mais l'Empire. Ce sera un empire romain. N'est-ce pas? Mais des temps modernes. Vous voyez? L'Empire romain, des temps modernes. Mais il faut quand même dire un mot sur le sens de Sodome et l'Égypte. Vous voyez, c'est bien lié à la contre-église de Satan. La contre-église de Satan, n'est-ce pas? Cette contre-église de Satan, donc Égypte, c'est là où vraiment le peuple de Dieu a été soumis, n'est-ce pas? Tué, massacré, piétiné par Pharaon. Pharaon représente qui ici? Satan en personne. Donc lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle de cette puissance-là, vous voyez, qui vient contrer la puissance de Dieu. Donc c'est une contre-église, plus Sodome. Ici c'est une indication très importante. Donc on vous ramène à une contre-église ici. Vous voyez? C'est pas difficile. Vous avez la bête qui monte de l'abîme, ou l'ange de la mort, ou l'ange machin. Vous avez Satan en personne qui va persécuter ce peuple-là. Quel peuple? Mais qui va accepter Dieu? Qui va se ranger du côté de Dieu? Et il va utiliser quoi? Mais des institutions, n'est-ce pas? Dans le temps, l'Église était à la fois mais une puissance politique, économique et religieuse ici. Donc, cela va être réhabilité, rétabli, n'est-ce pas? Voyez-vous ici? Donc, une contre-Église qui sera à la fois, qui aura la puissance politique, économique et spirituel qui va s'établir. Mais il va s'établir où? Mais les indices sont donnés. Hein? Parce qu'on donne une place symbolique. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur une place symbolique au moment des chrétiens? Il s'agit de ça. Qui relate l'Apocalypse? Mais Jean, il est qui? Mes disciples du Christ. Mais qu'est-ce que Jean voit? Qu'est-ce qu'il vit? Il souffre de quoi là, Jean? Mais de la persécution. Où est-il? Mais retranché. Voyez-vous ici. Hein? Il est retranché. À cause de la persécution. Donc c'est la persécution. Mais qui persécutait l'Église en ce moment-là? Quel est cet empire-là? Qui persécutait l'Église en ce moment-là? Vous avez trouvé. Hein? Et symboliquement, où était-il persécuté? Ou si vous voulez, on a persécuté les deux témoins que Jésus-Christ a missionnés. Où Paul et Pierre ont été spécialement persécutés. Sur quelle place on voit des symboles de ces deux témoins-là? Quelle place? Il y a bien une place là. Et cette place se situe où? Mais dans une ville, n'est-ce pas? Hein? Qu'on appelle Rome. Donc si vous avez trouvé Rome, il n'y a pas de difficulté pour trouver cette grande institution qui va à la fois avoir la puissance politique, économique, militaire, comme vous voulez, et spirituelle. Donc vous avez trouvé. Hein? Vous avez trouvé la place en question. C'est symbolique, ce sont des tournures apocalyptiques pour vous montrer. Cette place-là va devenir ce que Satan va faire du monde entier, de l'humanité tout entière. Donc Satan prendra le pouvoir, Satan va renverser cette église-là, n'est-ce pas? Et prendre la place du chef de l'église. Satan prendra la place papale. Il ne peut pas sortir n'importe où. Parce qu'il y a des lois, n'est-ce pas? Je vous ai dit, parce que l'Église catholique romaine est la continuité de la première nation. Donc il est tout à fait normal que Satan puisse se manifester au milieu de la première nation, comme il a fait au temps du Christ. C'est la même histoire. Il était où? Dans le temple, avec qui? Mais les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi. Et aujourd'hui, qui sont-ils? Ce qu'on voit, ce sont les papes, les cardinaux, les monseigneurs, les prêtres, etc. Ce sont les pharisiens. Pas tous, vous voyez? Parce qu'au milieu de ce temple-là, il y avait des vrais adorateurs de Dieu. N'est-ce pas? On vous parle, on vous donne l'exemple de Nicodème, ici. Voyez-vous ici? Mais il y en a encore d'autres qui ont cru en Jésus, qui l'ont approché pour approfondir, parce qu'ils ont reconnu le Christ. Et pourtant, il faisait partie des gens qui étaient haut placés dans le temple. Vous voyez? Mais la majorité étaient des faux. Hein? Caïphe, etc. C'était des faux. Voyez-vous ici? C'était des faux. Voilà pourquoi ils n'ont pas reconnu le Christ. Parce qu'ils servaient quoi en cachette? Mais une contre-église. Cette contre-église qui a été instaurée depuis le temps de Salomon. Voyez-vous que Dieu a laissé faire. Après Salomon, c'est la catastrophe. C'est la contre-église qui rentre. N'est-ce pas? Et cette contre-église a pris de l'ampleur. Il a commencé. Il s'est installé. Cette contre-église a plein de symboles d'Égypte. Les obélix, les pyramides. C'est ça. Si vous voyez une église, Église qui se dit de Dieu avoir des pyramides, hein, ces symboles-là, les pyramides, l'obélix, des symboles égyptiens, sachez-le que c'est une contre-église, c'est l'église de Satan. Et une église dans laquelle on pratique de la fornication, hein, où on encourage l'homosexualité, on encourage, voyez, toutes ces œuvres-là qui sont décriées par l'apôtre Paul ici. Voyez-vous ici, hein? Sodome en gros ici, c'est la perversion, oui. Hein? Sodome, c'est la perversion. Voyez? C'est cette contre-église qui va emmener ça. Voyez? Cette contre-église viendra rentrer dans la première. Donc nous sommes toujours dans le système de la première nation. Même si l'église, cette église-là, chrétienne, est scindée en plusieurs parties. Vous voyez, dans le monde entier éparpillé, on parle des adventistes, on parle des kimbanguistes, on parle des églises d'éveil, églises de je sais pas quoi, églises de machin. Mais vous voyez que tout ça, c'est fait encore partie de la Première Nation. C'est encore le système de la Première Nation. Nous ne sommes pas encore rentrés dans la deuxième. Il faut que les frères et sœurs comprennent que pour rentrer dans la deuxième, il faut passer par le Christ. N'est-ce pas? Il faut passer. Ça ne suffit pas. Donc, il y a un filtre. Nous allons tous être filtrés. Donc, nous allons passer par des épreuves qui détermineront mais notre lieu final, n'est-ce pas? Vous voyez, ceux qui vont réussir à ces épreuves-là, mais ils seront du Christ, n'est-ce pas? Vous voyez, ce n'est pas gagné, deuxième nation. Pour l'instant, nous sommes dans le système de la première, puisque la première nation doit continuer jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne mettre fin à cela. Vous voyez que lorsque le Christ est ressuscité, ce sont les serviteurs du temple, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, mais qui ont tout fait pour étouffer cette nouvelle, n'est-ce pas? Et ils l'ont étouffé jusqu'aujourd'hui. Ils l'ont étouffé au milieu des enfants d'Israël. Ils ont montré de A à Z que c'était un mensonge, que le Christ était bien mort. Et bientôt, ils vont même parler de son tombeau. Il faut vous dire que le Christ a un tombeau, il était mort, il n'est jamais ressuscité. Mais ce mensonge-là, qu'il a ourdi, qu'il a entretenu depuis des millénaires. Mais ce sont les serviteurs du temple. Ce sont ceux qui servaient dans le temple. Donc voyez-vous que ce temple-là mais doit exister à la fin, symboliquement. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, à la fin, on parle de ce temple-là qui doit exister. Cette première nation-là doit voyager. Donc il va quitter symboliquement la terre d'Israël pour s'établir où? Vous voyez, on vous donne le lieu, l'emplacement. Et encore dans les apparitions mariales, mais il est bien dit que Rome deviendra le centre de l'Antéchrist, le cerveau, le poumon. Donc il va s'installer là. Mais ne cherchez pas midi à 14 heures. Il ne peut venir que là où il a le pouvoir spirituel. C'est le spirituel, parce qu'il est esprit. L'Antéchrist est esprit. Donc, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait le pouvoir spirituel d'abord. Une fois qu'il a le pouvoir spirituel, eh ben, il pourra asseoir les autres pouvoirs qui en découlent. Mais c'est d'abord le pouvoir spirituel qui est important. Donc, il doit venir prendre ce temple-là. Donc, on est dans la situation tout à fait finale. Si vous voyez le Christ représenté par ce que je viens de vous expliquer, eh ben, il y a aussi le temple. Il y a aussi le temple. C'est-à-dire ceux qui officiaient dans le temple, qui l'ont vendu, qui l'ont trahi, qui l'ont condamné à mort, n'est-ce pas? Qui l'ont envoyé à Pilate. Mais ne cherchez pas midi à 14 heures. Ce temple-là existe. Il est bien là, dans les apparitions mariales, par exemple de Fatima, puisque nous allons bientôt fêter l'anniversaire, 100e anniversaire. Mais il est bien dit. Hein? On a bien dit. À qui on a donné ce gros message-là? Mais à ce temple-là, qui aujourd'hui continue les œuvres de la Première Nation. Donc la Première Nation, elle est là. La Première Nation prend aussi en compte mais toute la chrétienté, hein, le christianisme, si vous voulez. Hein, aujourd'hui, vous voyez, hein, ce christianisme qui est complètement infiltré. Oui, c'est toujours la Première Nation. Je répète. Que la deuxième nation, nous allons y rentrer après les épreuves. Donc rien n'est gagné. Même si, potentiellement pour les uns, ils sont déjà dans la deuxième nation. Mais il faut qu'ils passent par la tribulation, la mort et la résurrection pour mériter. Donc on doit tous passer par la mort et la résurrection. Il y en a qui l'ont fait dans les premiers siècles. Vous voyez? Il y en a qui se sont donnés en martyr parmi nous. Ils ne passeront certainement pas par ces épreuves-là. Dieu est juste. Mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils le feront. Donc vous voyez, Enoch et Élie, je reviens un peu sur eux, sur une question. Est-ce que Enoch et Élie ne mourront pas? Puisque Dieu les a enlevés, donc ils connaissent la vie éternelle. Non, hein? Hein? Non, pas encore. Hein? Il est question que Enoch et Élie viennent aussi passer par le même chemin que le Seigneur. C'est le chemin suivi par la nouvelle humanité. Enoch et Élie sont nés des parents pécheurs. Hein? Ce sont des hommes comme toi et moi. Mais ils ont eu une faveur de l'Éternel parce que c'était des hommes exceptionnels. Et Dieu les a enlevés ici. Hein? Exceptionnels. Mais ils ont porté des corps de péché. Et ces corps-là ont été enlevés, placés dans le ciel. Mais il est dit qu'à la fin, ils doivent revenir. C'est ça ce que je suis en train de dire là, hein? L'histoire des deux témoins. Donc, ils doivent aussi revenir à la fin pour passer par le même chemin que le Christ. Mais c'est tout à fait normal. Oui. Et Élie et Enoch, c'est le corps du Christ, oui. Mais ce corps-là est mort et ressuscité. Oui, c'était qui? Mais c'était Dieu lui-même. Donc, il faut que ses serviteurs qui l'ont enlevé puissent descendre aussi à la fin et puis passer par... Ça sera que juste une formalité. Parce qu'eux aussi doivent passer par la mort, c'est le chemin obligé, n'est-ce pas? Il faut que tous nous soyons plantés afin que nous puissions germer, oui? Mais il y en a qui l'ont fait dans le passé, hein? Il y a des premiers chrétiens qui se sont donnés, n'est-ce pas? En sacrifice déjà. Alors pour eux, c'est bouclé zingué, hein? Mais il y en a qui doivent passer par là. Donc c'est le chemin obligé, hein? Mais vous voyez, pas tout le monde, pas à la fin, c'est pas peut-être tout le monde. Il y aura ceux qui seront épargnés parce qu'ils ont déjà payé. Voyez, bon, je reprends. Voyez, on va pas vous épargner parce que vous faites beaucoup de boulot de Dieu, parce que vous êtes, je sais pas, spécial, non. Si vous n'êtes pas encore passé par cette tribulation, c'est-à-dire après la mort et la résurrection du Christ, il y a eu la persécution de l'Église. Vous me comprenez, mes frères et sœurs? Donc, beaucoup de chrétiens ont donné leur corps, se sont sacrifiés comme Étienne, voyez. Hein? Paul, Pierre, tout ça. Ils sont passés par ça, par la persécution. Oui? Donc, il y en a qui ont déjà payé leur part. Donc, ils font partie, on les voit dans l'Apocalypse. Voyez? Donc, ils sont prêts, ils attendent. On leur a donné des robes blanches, etc. Mais il y en a parmi nous, bien que faisant partie, bien qu'étant dans le livre de vie, mais qui n'ont pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore passés par les tribulations. Donc nous devons passer pour rejoindre les autres, pour rejoindre le Christ. Il faut passer par, c'est le chemin obligé, n'est-ce pas? Donc il y en a qui seront pris parmi nous, n'est-ce pas? Qui vont aller direct, parce que, ou bien qui seront épargnés, n'est-ce pas? Qui ne connaîtront pas toutes ces souffrances-là, parce que ils ont déjà fait le nécessaire. Il y en a qui seront peut-être enlevés, disparaître, hein? Parce qu'ils ont déjà fait le nécessaire. Donc, il y aura des cas. Mais tout le monde ne sera pas traité de la même manière pendant la tribulation. Vous voyez? Hein? Pas tout le monde de la même manière. Mais les épreuves sont là pour mettre tout le monde au même niveau. Hein? Nous serons tous au même niveau par les épreuves. Et les épreuves, c'est pas la même dose d'épreuves que chacun aura. Chacun aura une épreuve qui correspond à sa situation, à son niveau, à son élévation spirituelle. Hein? Mais quand cela ne tient, vous voyez que la persécution, les tribulations, c'est le monde entier qui vivra. Mais chacun a un degré, vous voyez, hein? Donc le ciel fera de telle sorte que, eh ben, ses enfants soient nourris. Voyez, hein? Donc il y aura une aide spéciale du ciel. Le ciel viendra nous aider dans cette traversée-là. Voyez, hein? Donc l'aide dépend aussi de notre niveau spirituel. Voyez, hein? Donc la nourriture que nous allons avoir du ciel, cela dépend. On ne peut pas donner à un bébé la nourriture d'une personne adulte. Voyez, il y en a à qui on donnera du lait, hein? C'est par rapport à leur niveau spirituel. Il y en a à qui on donnera de la viande, etc. C'est une façon de parler, hein, une métaphore, si vous voulez. Donc voilà, mes gros chefs. Je crois que j'ai bien parlé des deux témoins ici pour que vous puissiez comprendre quel peuple doit fêter la fête de 7 et 7e fête de sabbat. Voyez-vous, c'est ce peuple-là qui sera martyrisé. Donc, il faut que ce peuple-là passe par ça, eh ben, pour rentrer effectivement dans la deuxième nation. Donc, la fête de cette septième fête de sabbat, c'est une fête qui est instituée dans la deuxième nation. Donc, nous allons la fêter vraiment lorsque nous serons unis. C'est un peuple multiculturel de la fin. C'est un peuple qui viendra. Et Dieu leur a donné, mais une terre. Vous voyez, symboliquement ici. C'est une terre ici. Et cette terre a une particularité. C'est qu'elle est coupée en deux par un fleuve. C'est ce que Daniel voit. Et qui voit-il au-dessus de ce fleuve-là? Mais un homme habillé en lin, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se posent la question, ils demandent, mais c'est qui cet homme-là que Daniel voit, là, qui est habillé en lin, tout ça? Mais il n'y a pas de difficulté. C'est celui à qui on a confié la mission. De faire quoi? Mais de conduire le peuple de Dieu. Mais c'est qui ce peuple-là? C'est la deuxième nation. Mais c'est qui cette deuxième nation? Je viens de vous expliquer. Donc, vous voyez, symboliquement ici, Dieu leur donne, pas symboliquement, définitivement, Dieu leur donne une terre, comme il avait dit à Moïse. Vous voyez? Je te donnerai la terre promise. Oui. Et quand Moïse est arrivé, il dit, bon, regarde, tiens, à cause de tout ce qui s'est passé, toi, tu t'arrêtes là, mais ton peuple, je l'emmène là-bas. Vous voyez, le peuple là-bas. Tu vois, ouais. Bon, toi, c'est bon ici. Je l'emmènerai là-bas. Mais attention, ça, c'est une terre de passage. Je me ferai connaître au milieu du peuple de Canaan. Je me ferai connaître au milieu de l'humanité, tout entière, là. Mais attention, mais la terre que je donne, finalement, à mon peuple, c'est la terre que j'ai donnée à. Mais à Jacob, qui est où? Mais au-delà des fleuves d'Éthiopie, Katiopa. Donc en Afrique, hein, c'est Katiopa. Éthiopie, c'est une déformation de Katiopa, qui veut dire Égypte, hein. Et Afrique, je veux dire, Katiopa, c'est l'Afrique. Donc au-delà là-bas, Sophonie 10, hein. Ou 3, non, Sophonie 3, verset 10. Oui, au-delà. Donc c'est cette terre-là où il y a un fleuve. Donc vous ne pouvez pas tricher. Il y a un fleuve, n'est-ce pas? Sur cette terre-là que l'Éternel donne à son peuple, multiculturel. Vous voyez, il y a un fleuve, n'est-ce pas? Et de part et d'autre, il a établi son peuple originel. Donc, comme je vous ai dit, Israël doit être une base. Vous voyez, Israël vivait à côté de, bon, on appelait ça Israël, mais dans le truc, la configuration du passé, vous aviez Juda et Israël. Vous aviez Juda, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, n'est-ce pas? Ou le royaume du sud et le royaume du nord, symboliquement, ici, vous voyez. Donc, vous voyez, hein, ici, eh ben, sur la rive gauche et la rive droite, il y a bien deux témoins qui sont là. Israël, vous voyez ici, tel que c'est décrit dans la Bible, on voit Juda. Juda ici, c'est Benjamin, hein, le royaume de Juda. C'est Benjamin, Juda et une partie de Lévi, vous voyez, ce qu'on appelait le royaume de Juda. Et vous voyez de l'autre côté, c'était Israël. Israël, c'était quoi? Une demi-tribu de Lévi. Plus les autres, hein? C'est-à-dire les autres, quoi. Oui. Vous voyez la même configuration là à la fin. Et vous voyez que Dieu montre ce territoire-là coupé en deux, hein? Donc, le pays de Dieu qui est scindé en deux. Oui. Il est scindé en deux. N'est-ce pas? Vous avez l'impression que sur une rive, vous avez Juda et sur l'autre rive, Israël. Et puis un peu plus tard dans l'histoire, lorsqu'on est au temps de Jésus, vous voyez que cette configuration-là a disparu. Et on vous parle des Samaritains. Des Samaritains. Donc encore ici, un métissage. Ici, des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Un métissage. C'est ce qui explique le Congo, ben, je vous parle du Congo là, quand je vous parle de la terre en question, hein, où il y a un fleuve au milieu. Le fleuve qu'ils appelaient Oula et je sais pas quoi, machin. Hein. Dans la Bible, on parle d'un fleuve. Oui. Il y a quelqu'un au-dessus. Effectivement, il y a quelqu'un qui est apparu comme ça. En 2007, n'est-ce pas? À Kinshasa, quelqu'un qui est apparu habillé en lin, n'est-ce pas? D'autres l'ont vu avec un t-shirt, etc. Où était-il? Mais il était au-dessus de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y avait là à Kinshasa? Il est apparu au milieu de qui? Qui? À qui il voulait... C'est-à-dire qu'il s'est montré pourquoi. Mais pour vous indiquer, Daniel, et surtout pour vous indiquer la terre promise à Jacob. Et Moïse est au courant lorsque Dieu lui dit, le peuple arrive là, tout simplement parce que je veux me faire connaître. Mais ton peuple va m'abandonner. Ton peuple va me rejeter. Mais j'irai vers une autre nation. Donc Moïse sait. Mais où? Là-bas. Là-bas! Tourne. C'est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Donc en Afrique centrale. Ça, c'est une réalité. Ça sera une évidence. Tout le monde ne pourra plus nier parce que ça sera ainsi. En Afrique centrale. Donc c'est en Afrique centrale qu'il y a bien ce fleuve-là. N'est-ce pas? Qu'il y a bien un fleuve. Et de part et d'autre de ce fleuve-là. Mais il y a deux nations, mais qui sont en fait une seule. Mais coupées. Coupées. Par le fleuve. Et coupées aussi. Hein? Sur le plan spirituel, économique, politique, etc. Alors, ouvrez les yeux, mes bien-aimés. Qui l'a fait alors? Qui a coupé ce peuple? Édom. Ah! C'est qui? Édom. Et qui est à la tête d'Édom aujourd'hui? L'Antichrist. Qui est-il à l'Antichrist? Et qui est Édom aujourd'hui? Édom. Bon, je vous laisse chercher, je ne vais pas vous donner toutes les réponses quand même. Hein? Cherchez, c'est quoi la nation Édom actuelle, n'est-ce pas? Cherchez, on vous dit, quel est le pays qu'on appelle Édom actuellement? Et oui, si. Souvent, on vous parle aussi de l'Assyrie. Hein? L'Assyrie. Cherchez tout ça. Vous dites, l'Assyrie, c'est quoi? Hein? Assyrie, A-2-S-Y-R-I-E. Vous tapez, vous faites des recherches. La Syrie actuelle, c'est quel pays? Mais vous allez voir tous ces peuples-là dont je vous parle. Plus c'est Édom qui vient s'ajouter. Édom. Ah! Et vous comprenez pourquoi ce pays a été scindé? Pourquoi tout au moins ces pays ont été coupés ainsi? Vous voyez, c'est pour les exploiter. Donc, on revient à la servitude au temps d'Égypte. Là, on est bien en Égypte. C'est bien la territoire. Le territoire, c'est bien la terre africaine. Mais qui est en train d'asservir ce peuple-là? Oh, la grande question. Vous voyez? Qui est en train d'asservir ce peuple-là? Oh. Vous voyez, ici, vous avez fait les liaisons. Vous allez comprendre, n'est-ce pas? Ce que je viens de parler, de dire, sur le plan prophétique, enfin spirituel, et sur le plan physique. Vous voyez, on joue sur plusieurs tableaux, mais l'histoire est la même. N'est-ce pas? On joue sur plusieurs tableaux, mais l'histoire est la même. Donc l'histoire reste toujours celle d'Israël, du peuple choisi par Dieu. N'est-ce pas? Qui a formé la première nation. Mais Dieu veut que ce peuple-là rentre dans la deuxième. Oui. Vous voyez, est-ce que vous me comprenez? Mais le peuple-là ne peut pas rentrer dans la deuxième sans passer par la souffrance. Pourquoi ce peuple-là passe par la souffrance? Et pourtant, ce peuple était sorti d'Égypte. C'est parce que ce peuple-là a rejeté Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi Satan vient s'opposer. Alors finalement, qui dirige ces peuples-là? Vous voyez, le problème de ce peuple-là vient en partie de ceux qui le gouvernent aujourd'hui, hein, ceux qui sont établis là pour le gouverner. Mais ça vient, c'est profond, voyez-vous. Mais ça vient de très loin. Qui en fait gouverne ceux qui gouvernent ces nations? C'est là la question, si vous trouvez. Alors, qui sont-ils ces pays? Sont-ils cités dans la Bible comme quoi? Vous voyez que Édom va renaître. Vous voyez que la Syrie va renaître. Vous voyez, les pays de Canaan vont renaître. et former un bloc à la fin. Ici, un bloc à la fin. Mais si on ne parle que de ceux qui ont existé au temps de Jésus, n'est-ce pas, et qui colonisaient le peuple dont Jésus est issu, eh bien on comprend tout. Hein? Cherchez à comprendre, mais qui colonise les pays africains, en l'occurrence, les deux pays qui sont de part et d'autre du fleuve. Vous allez trouver que ce sont des pays européens. Alors, que dites-vous de l'Union européenne? C'est quoi exactement, alors? Je m'arrête là. Vous voyez? Quel est le centre d'intérêt de cette union? Et où cette union a sa puissance spirituelle? Et quelle est cette contre-église, ici, qui tire les ficelles dans l'ambre? Et où est-elle? Tout vous est donné, n'est-ce pas? En vous parlant d'Égypte et de Sodome. C'est une contre-église. Et les corps des deux témoins seront exposés sur une place. Vous connaissez cette place, n'est-ce pas? Symboliquement, où on a persécuté les chrétiens. Cette place-là était un cirque. Donc le monde entier, à la fin, sera considéré, sera un cirque où l'Antéchrist va s'amuser avec l'humanité. C'est un cirque. Vous voyez? C'est tout le monde entier. Et il va s'amuser parce qu'il mettra son temple là. Juste en face de la place. Vous voyez sur cette place là souvent, le chef de l'église y vient. Il apparaît où le chef de l'église? Dans une basilique en haut. Mais qui est en bas? Vous vous êtes posé la question, pourquoi le peuple, il y a une foule en bas qui l'écoute parler? Voilà ce que Dieu veut vous enseigner. Voilà ce que Dieu veut vous montrer. Mais c'est une situation aussi finale. Donc vous voyez, l'Église a une lourde responsabilité dans la persécution. Dans ce qui arrive dans le monde. Parce que l'Église va être infiltrée par une contre-église. Donc l'église n'aura plus de pouvoir à proprement parler à la fin. C'est-à-dire l'église mettra Dieu au dehors et fera rentrer Satan en personne qui prendra la place du conducteur de l'église. Donc il y aura un antipape qui viendra prendre le pouvoir. Cet antipape là, mais c'est l'antéchrist. Il sortira où? Mais on vous a dit où il sortira. Il montera de l'abîme. Il sera où, symboliquement? Je viens de vous en parler en long et en large. Lorsqu'on vous donne les symboles de l'Égypte et Sodome. Et vous voyez, les habitants de la terre vont se partager les présents. C'est qui ces habitants de la terre qui se partagent les présents? N'est-ce pas? C'est qui ces habitants de la terre qui ont été tourmentés par la prédication d'Élie et d'Enoch? Mais ce sont les enfants de Satan, infiltrés parmi nous. Ce sont les enfants de Satan qui vont prendre place, qui vont diriger les églises. Ils seront en majorité, des pasteurs, des prêtres, des cardinaux, etc. Des membres confirmés, ce sera les enfants de Satan, n'est-ce pas? Lorsque leur temps arrivera, lorsqu'ils vont vraiment se déclarer, ils vont prendre place, ils vont s'aligner devant leur officiellement, hein, publiquement. Parce qu'aujourd'hui, ils le sont, mais en cachette. Nous ne savons pas ce qu'ils font. Oui, mais eux, ils savent bien. Donc, à un moment, ils vont s'aligner derrière... comment on appelle ça? Derrière Satan. Hein? Donc, c'est cette contre-église. Vous voyez, sous le plan général, Dieu veut qu'on voie ce qui va se passer à Rome, et spécialement à Vatican. Hein? À Rome et à Vatican, il va se passer quelque chose, n'est-ce pas, qui attirera l'attention de tous les chrétiens, parce que c'est la base, ça. Ça, c'est une base. Vous voyez? Donc, il a voulu que ce temple-là, donc voilà, vous avez la réponse, je l'ai dit, hein, que ce temple-là, mais que le monde entier voie. Donc, la persécution des chrétiens va commencer où? Mais là! Et spécialement où? Mais à cette place-là! Hein? À cette place-là,
où il y a symboliquement Pierre et Paul. Ils sont bien là. Et cette place-là, c'est un cirque où, eh ben, on livrait les chrétiens aux rapaces, aux bêtes sauvages, oui. Où on persécutait, on tuyait, on brûlait les chrétiens. C'est une place. Donc symboliquement, cette place-là va exister à la fin. Mais qui viendra là-bas sur cette place-là? C'est bien les chrétiens qui viennent là-bas. Écouter quelqu'un, oui ou non? Oui. Mais voilà. Ça montre la persécution de la fin. Les vrais chrétiens de la fin, que je vous ai dit ici, cette deuxième nation sera persécutée par cette contre-église, c'est tout. Dont le siège est à Rome. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, ouais, vous, aujourd'hui, qui ne voulez pas lire les messages qui viennent des catholiques, mais vous n'avez pas pigé, hein? Soit vous ne pigez pas la parole de Dieu, soit vous ne comprenez pas la mission. Oui. Il faut que cela soit ainsi. C'est-à-dire, de la première nation, il faut que sorte un résidu. Oui, c'est normal. Hein? Ceux qui se disaient chrétiens, ceux qui se disaient juifs, je sais pas, chrétiens dans le passé, il faut qu'ils confirment leur foi en Jésus. Mais après les épreuves, voyez-vous que ça ne sera pas le cas. Donc des deux côtés, du côté des juifs, il y aura un résidu. Oui, je suis d'accord. Hein? Et je reprécise aussi, du côté des chrétiens aussi, il y aura un résidu. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Et chrétien, celui qui adore le Christ, Dieu, en esprit et en vérité. Mais vous voyez que tout le monde n'est pas chrétien. Au milieu de nous, c'est infiltré les enfants de Satan. Et qui se disent chrétiens, oui, qui sont là dans la masse. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pas tout le monde qui est chrétien. Donc on appelle chrétien celui qui l'est véritablement. Mais on le saura qu'à la fin. Donc nous sommes encore, je répète, dans le système de la première nation. Vous voyez? Nous serons dans le système de la deuxième nation que lorsque nous aurons traversé les épreuves. C'est pour ça que le maître nous dit, le vent va souffler, et beaucoup seront arrachés par le vent. Mais ce sont seulement ceux qui vont rester qui feront partie de l'Ozolo. Donc c'est un résidu dans tous les domaines. Partout où il y a la chrétienté, il y aura un résidu, il y aura un reste. Parce que nous faisons partie encore, je répète, du système de la première nation. Mais tout en sachant que la deuxième nation, c'est les chrétiens. La deuxième nation, c'est indiscutable, c'est les chrétiens. Mais qui l'est et qui ne l'est pas? On ne sait pas aujourd'hui. Donc pour le savoir, il faut qu'il y ait les preuves. Et comme ça, on saura qui est qui. Et ceux qui vont opter pour Dieu et ceux qui vont rester fidèles à Dieu jusqu'à la fin des épreuves, ce sont ceux-là qu'on va appeler chrétiens, véritablement chrétiens. Vous voyez que ce sera tout le monde. Vous voyez ici. Ah, tout le monde. Donc oui, c'est vrai que Israël a abandonné Dieu, a rejeté Dieu. C'est pour ça qu'Israël souffre. La vraie Israël, enfin vrai, hein, mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. Oh, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, si je vous ai parlé de deux pays ici, vous voyez, là, on est en train de tirer, là. Ça va trop. Le temps passe. Ça fait 1h30 déjà que nous sommes en train de parler de ça. Je crois qu'on va s'arrêter, hein. Je crois que vous avez eu pas mal d'informations. Vous connaissez ce qui se passe, hein. Ce qui se passe réellement, surtout au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa à côté. Pourquoi cette souffrance? Il faut que vous puissiez comprendre. C'est une servitude. Elle est à la fois physique et spirituelle. Vous voyez? Vous me comprenez? Physique et spirituelle. C'est cette persécution. Vous voyez? À ciel ouvert. Voyez, après cette persécution viendra la mort. Elle a déjà commencé. Vous voyez? Mais elle va prendre de l'ampleur. Vous voyez, cette persécution va être suivie par la mort, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que vous voyez là. Mais qui est en train de travailler? N'est-ce pas? Qui fait ça? Mais c'est l'Antéchrist. Où est-il? Où a-t-il pris ses fonctions? Où va-t-il régner? Mais à Rome! Donc, ne cherchez pas à midi à 14h. Mais d'où viennent les souffrances? D'où viennent les souffrances? L'Apocalypse vous explique clairement. Vous voyez? mais elle va venir d'une contre-église. Donc lorsque vous voyez l'église catholique, elle a été suscitée. C'est Dieu qui a voulu que cette église soit. C'est sa volonté et vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ses enfants qui sont dedans. Parce qu'il y a ses vrais adorateurs qui sont dedans. Il a voulu que cela soit. Mais attention, à la fin, c'est Satan en personne qui viendra prendre cette église. C'est Satan qui fera un coup d'État. Je crois que vous avez déjà bien vu le début. Et c'est Satan qui va s'installer. Donc, quand il va s'installer, il va persécuter d'abord ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu, au milieu de cette église, c'est vrai, il y a des vrais adorateurs de Dieu dans cette église qui seront invincés. Ce sont ces personnes-là. Mais à qui Dieu parlera? Dieu parlera à ce reste-là fidèle. Donc, il y aura un reste au sein de l'église catholique romaine qui restera fidèle à Dieu jusqu'à son avènement. Il n'y a rien à faire, ceux-là, ils sont fidèles. Ce sont des personnes qui endurent des pires de persécutions au milieu de cette église. Ce sont des personnes qui ont gardé les coutumes des apôtres, la mission des apôtres. Et ils sont piétinés parce qu'en majorité, les personnes qui ont pris cette église, ce sont celles qui appartiennent à la contre-église, qui a pour symbole Égypte et Sodome. On ne va plus se cacher. Cette contre-église, on l'appelle la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie spirituelle, chrétienne, si vous voulez. Vous voyez ? La franc-maçonnerie chrétienne, c'est une contre-église qui viendra s'asseoir symboliquement à Vatican, à Rome. Il prendra le pouvoir là. Oui, il va s'asseoir là. Et en s'asseyant là, comme c'est la clé, les clés, les deux clés que vous voyez, hein, qui symbolisent cette institution. Mais c'est la clé qu'il va avoir, enfin, hein, que l'ennemi va l'avoir. Et ainsi, il va infiltrer toutes les religions chrétiennes. Donc, tout le monde va être infiltré par cette contre-église qu'on appelle la franc-maçonnerie, qui viendra, mais avec plusieurs tentacules, qui va se déguiser en organisation caritative, organisme, je sais pas quoi, non gouvernemental, multinational, etc. Des trucs comme ça. C'est ça, le déguisement de cette franc-maçonnerie. J'ai dit chrétienne, non, excusez-moi. Franc-maçonnerie ecclésiastique. Donc c'est la franc-maçonnerie qui vient à rentrer, mais dans l'église chrétienne. Mais c'est pas seulement l'église catholique. Que les gens voient aussi la poutre qu'ils ont dans leurs yeux. Protestantes aussi. Kimbanguistes aussi. Voyez-vous aussi que dans la SLA, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Il y en a. Il y a des présidents de sections et de sous-sections qui sont rentrés dans cette contre-église. Donc c'est général. Partout où on confesse le nom de Jésus, cette contre-église viendra s'installer. Donc cette contre-église, elle agit dans le domaine spirituel. Donc, il va gagner le monde entier. Et il fera que le monde entier devienne un cirque où tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, écoutez-moi bien, vont être persécutés. Où l'humanité tout entière connaîtra le calvaire. Vous n'aurez la paix que si vous acceptez l'Antichrist, la marque et sa marque. C'est le cirque que vous voyez. Où on tue, on bombarde, on décime, on écrase, on rase, sans pitié. C'est qui est cette contre-église qui favorise cela? Eh bien, la franc-maçonnerie. Elle va prendre plusieurs formes. Mais c'est une institution spirituelle d'abord, n'est-ce pas? Mais qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que... Voilà. Et c'est qui l'architecte, là, de l'univers dont les gens parlent? Mais c'est l'Antéchrist, tout simplement. Hein? Les frères et sœurs de l'Ozolo, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans ces loges-là, si vous appartenez à cette contre-église, sachez-le que vous allez mourir éternellement. Si vous ne sortez pas maintenant, je viens de vous donner des indices lorsqu'on parle de l'Égypte et Sodome, mais on fait allusion à cette contre-église qui a plusieurs signes égyptiens, n'est-ce pas? qui est fondée sur des symboles égyptiens. Vous devez comprendre. Si on a le temps, Dieu nous donne la possibilité de parler de ça clairement, de cette contre-église. C'est véritablement une contre-église quand vous ne vous dites pas, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la chrétienté, ça n'a rien à voir avec ceci. Mais si, ça, cette contre-église va agir partout, dans tous les domaines, et surtout spirituel. Le plus grand combat, c'est celui d'avoir le côté spirituel. Donc, il va rentrer dans les religions, partout. Il va s'installer dans les religions pour casser, pour enlever Dieu. Et remplacer tout par lui. Et alors, ses œuvres vont abonder dans le monde. Ce que vous voyez, Sodome est partout. Vous voyez? Mais ça vient de nous, ne vous posez pas la question. C'est une contre-église. Et cette contre-église aura pour siège, il va siéger à Rome. Donc c'est bien l'Italie qui est concernée là. D'où le message de Maman Marie à Fatima. C'est pour prévenir ce peuple. N'est-ce pas? Qu'on appelle en gros les chrétiens, mais qui viendront des païens. Mais on a vu ces peuples-là, symboliquement, les sept peuples qui formaient, le peuple de Canaan. Donc, ce peuple-là existe depuis le temps d'Abraham. C'est au milieu d'eux que Dieu envoie Abraham. C'est pour ça que je vous ai dit, mais le Messie va se manifester au milieu de ce peuple-là, parce que mais c'est au milieu de ce peuple-là qu'on a envoyé Abraham. C'est la mission d'Abraham. Donc, Marie, si vous voulez voir Marie, il va se manifester au milieu de ce peuple-là. Il s'est manifesté au Portugal. Portugal fait partie de l'Europe. Donc, c'est bien de l'Europe dont il s'agit. Oui ou non? Ben oui, mais ne cherchez pas midi à 14h où l'Antéchrist va apparaître. Vous voyez? Et où, en tout cas, il va agir pour soumettre le monde. Et vous voyez, pour mettre fin à la première nation, eh bien Dieu en personne va agir. C'est-à-dire, nous saurons que la première nation est finie, est terminée, lorsque le feu va brûler, lorsque Rome sera en feu, y compris Vatican. Et lorsqu'on verra le scandale, lorsqu'on verra ce que dit Daniel, l'abomination de la désolation. Hein? S'installer dans le lieu saint. Saint d'abord. Il y a un premier lieu quand même qui est saint. Donc on fait allusion à la première nation. C'est le premier système. Saint. Vous voyez que Dieu a continué cette première, a voulu que cette première nation puisse continuer. Donc il n'y a pas de doute. Si vous voyez, si vous recevez des messages de l'église catholique, qui viennent de l'église catholique, mais ce sont des messages de Dieu. C'est lui qui veut passer par ce canal parce qu'il a voulu parler à la première nation jusqu'à la fin, mais par cette église. Donc le système de la première nation, mais est encore là. Voyez-vous ici, c'est Jésus qui viendra mettre fin à ce système-là. C'est Jésus, quand il apparaîtra, mais tout ce système-là va tomber. Il ne va rester que la deuxième nation. Et donc tous ceux qui sont de la deuxième nation viendront rentrer dans son corps. Et c'est fini. Et c'est là où on verra la deuxième nation, puisque c'est lui-même le Christ. Donc il faut que le Christ se manifeste pour qu'on voit la deuxième nation. On ne peut pas voir la deuxième nation sans qu'il se soit manifesté. Voilà pourquoi il y a la visite du Seigneur, ce qu'on va voir la prochaine fois, le 10 juillet 2005, à 20h45. Pourquoi il apparaît à Papagué mille fois cette quoi? Là, le 10 juillet, là, je vais vous expliquer, hein? En long et en large. Et vous comprenez que tout est lié. Pourquoi cette date-là? Vous allez chercher. Vous voyez que c'est lié. À quoi? Mais à la première nation, qui symboliquement est en Europe. Mes frères et sœurs, voilà les choses cachées. C'est ça, hein? Symboliquement en Europe. C'est pour dire, je veux mettre fin à cela. Comment est-ce que tout sera mis fin? On mettra fin, hein? Vous voyez, cette septième fête de sabbat, qu'est-ce qu'on dit ici? Ah, mais je ne sais pas si j'ai le temps de tout dire, hein, aujourd'hui. On va peut-être réserver encore pour la prédication prochaine, hein? On va revenir, hein, sur ce chapitre-là, sinon ça fera trop. Voyez-vous ici, hein? Parce qu'on va revenir sur les sept Je vais vous démontrer en partant des 777, fête 7, 7, 7e fête de sabbat, en partant de ces 7-là, on va arriver à la date du 10 juillet 2005. Hein? On arrivera à cette date-là. Vous comprenez que ça a un lien avec l'ancien système. Donc le Christ reviendra en puissance. Il faut qu'il trouve mais l'ancien système, l'ancien temple, la première nation. C'est lui qui doit mettre fin à ça. Il l'a promis. Il a dit que votre maison vous sera laissée déserte. Jusqu'à ce que vous direz, béni soit, jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que... Mais vous vous rendez compte que je suis ce Dieu-là, vous m'avez rejeté. Mais il n'y a pas que seulement Israël qui va rejeter Dieu. Vous voyez? Mais les églises aussi, chrétiennes, vont faire comme Israël, vont rejeter Dieu, parce qu'ils seront infiltrés par la contre-église, qui est la franc-maçonnerie. Beaucoup de pasteurs seront des francs-maçons. C'est caché, n'est-ce pas? Mais vous voyez ici, Satan va donner son autorité, son pouvoir à la bête. Et la bête viendra s'asseoir où? Mais c'est une église. Cette église-là deviendra mais de la franc-maçonnerie ecclésiastique. Cette église n'aura plus Dieu. Dieu ne sera plus. Ils vont enlever Dieu des temples. C'est ce que vous voyez, des églises et tout. Ils vont refroidir, les chrétiens ne viendront plus. Ils parlent que de la culture. Ah, ils parlent encore des choses, vous voyez, terre à terre. Si vous voyez des choses comme ça, sachez que cette contre-église a pris le pouvoir. Et il va donc enlever l'Eucharistie. Tout. Ils vont laisser cette église-là vide. Et alors, l'Antéchrist va venir s'asseoir. C'est ce qui se passe actuellement. Il est là, il agit. C'est ce que vous voyez. N'est-ce pas? Donc, Élie et Enoch seront mis à mort, c'est ça. Donc, je vous ai parlé du pays. On reviendra encore, hein, la prochaine fois, sur le pays. C'est pour ça que vous voyez là, hein, ce qui se passe dans le Pool, sur le Congo Kinshasa aussi, dans les régions où il y a des génocides, ces génocides-là. Mais c'est ça quand l'Apocalypse parle de ça. C'est-à-dire que le monde entier sera comme un cirque où ces puissances-là vont débarquer et vont tout raser, vont tuer les gens, n'est-ce pas? Vont les assassiner. Ce sont des rituels, des sacrifices humains à grande échelle. Ce sont aussi des punitions. N'est-ce pas? Parce que c'est écrit comme ça que les deux témoins seront tués. Il y en a, vous n'allez même pas faire des tombeaux. Parce que leurs corps seront tellement déchiquetés, écrasés. Et il y en a, on va faire disparaître les preuves, etc. Mais c'est dit, c'est cette persécution qui commence, mais qui va être à l'échelle mondiale. Il a commencé au Moyen-Orient, mais il va s'embraser. Pourquoi au Moyen-Orient? Parce que c'est le début. Et puis, il va prendre mais l'Europe, après. Oui, le monde entier. Oui. Ce que l'Europe fait faire aux autres, la punition que l'Europe inflige aux autres, mais va lui revenir. Parce que c'est le diable là, qui le fait. Il fait croire aux gens qu'il est avec eux, alors qu'il est ami de personne. Le diable n'est pas ami avec l'être humain. Il faut que l'être humain le sache. Le diable n'aime pas l'homme. Donc il va vous prendre avec lui pour vous servir, pour se servir de vous. Il va se servir de vous afin que vous puissiez persécuter vos prochains. N'est-ce pas? Votre prochain. Vous persécutez, vous êtes content, il vous donne des faveurs, il vous donne des biens, il vous donne... Mais attention! Après, il va se retourner contre vous. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné depuis la nuit des temps. Aucun homme n'a été heureux avec le diable. Jusqu'à la fin. À la fin, le diable lui ment toujours ce qu'il est. Et il le culbute, il le tue, et il est terminé. Et il passe à autre chose. Parce qu'il a horreur de garder longtemps quelqu'un sous ses faveurs. Oui, il vous donne. Ce qu'il vous donne, il va les prendre. Un moment. Il vous donne. Et il voit qu'il vous a épuisé, il vous a volé votre force, votre lumière, tout. Vous êtes tellement sombre que vous ne représentez plus rien pour lui. Et il vous ravit ce qu'il vous a donné. Poum! Il vous liquide parce qu'il sait que vous n'êtes plus rien. Et il va chercher quelqu'un qui a encore de la lumière. Il va chercher quelqu'un qui a encore. Donc, lui, son travail, c'est piller. Si l'homme savait la richesse qu'il a à l'intérieur... Mais il n'allait pas se permettre d'aller voir le diable. Parce que le diable n'a rien. Le diable, il est ténèbre. Il est sombre. Donc, il envie la lumière que les hommes ont. Donc il va vers les hommes. Il leur propose ce qu'il a volé. Et les hommes acceptent. Et en acceptant, il te prend ta lumière, il te prend. Puisqu'il est ténèbre, il va jamais être lumière. Donc il a envie, il veut se rassasier de lumière. Mais il en veut. C'est sans cesse. Et une fois que toi, tu n'as plus de lumière, il t'a vidé ta lumière, il a pris toutes tes richesses, il t'écrase. Il va vers une autre personne. Il épuise, il écrase. Et en même temps, il enchaîne. Et c'est lui qui enchaîne les gens. Donc, ceux qui ont fait du mal hier aux autres, c'est la roue qui tourne. C'est pour ça qu'on dit, il y a la loi de la dualité. Ceux qui ont fait du mal aux autres, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, ce grand système qu'on appelle tout simplement l'Empire romain des temps modernes, ou encore Édom aussi, ou Assyrie, ce sont des termes que Dieu utilise. C'est pour vous montrer que tous ces empires qui ont existé avant vont se mettre ensemble, vont se coaliser. C'est-à-dire que c'est Satan en personne qui va venir prendre le contrôle. C'est Satan qui a régné au sein de ces empires-là pour combattre Dieu. Donc Satan s'est éclaté, il a montré toute sa puissance. Et oui, mais à la fin, il va coaliser, il va prendre tous ces empires-là. Puis c'est lui-même maintenant qui va apparaître. Donc il apparaîtra fort de cette coalition d'empires sataniques qui ont existé. Dans Babylone, Édom, Assyrie, comme vous voulez, Égypte. Oui. Et à la fin, Asie qui va rentrer. Asie. Asie. D'où il y aura Gog et Magog qu'on verra. Gog et Magog. Ah, mes bien-aimés, c'est tellement intéressant, vous voyez. On a envie d'en parler, mais il faut savoir s'arrêter. Ça va faire 2 heures là, bientôt, qu'on est en train de parler. On va s'arrêter. Je reviendrai prochainement sur ce que nous avons dit, n'est-ce pas, sur l'essentiel. Et nous allons parler des terres. Les deux témoins, c'est aussi une terre, n'est-ce pas, mais scindée en deux, vous voyez ici, par le fleuve. Les terres sont divisées par le fleuve et aussi divisées par Satan, n'est-ce pas? Satan, personne qui divisera à partir de ses royaumes à lui. Donc, il va rétablir les royaumes du passé qui ont combattu Dieu. Dans l'Union européenne est un. Les États-Unis aussi est un. Ce sont ces royaumes-là. Mais vous voyez qu'ils sont ensemble. C'est une coalition. Et la Chine vient en rentrer. Et la Russie, vous voyez, ce sont des empires qui ont existé. Mais Satan viendra faire une coalition contre maintenant ce peuple-là. Contre ce peuple-là, ou contre cette terre-là. Et ce peuple-là, ce sont des chrétiens d'abord du monde entier. Et ce peuple-là aussi, c'est une terre. D'où ce qui se passe actuellement. Donc il faut que les frères et sœurs élèvent le niveau de la prédication. Je vous demande pas de dire des choses compliquées, mais dites aux frères et sœurs ce qui va se passer. Il va se passer ce qu'on a prédit, ce qu'on a dit dans la Bible. La tribulation, les souffrances. Une nation va se lever contre une nation. Nous sommes arrivés parce que Satan va prendre le pouvoir. Donc parlez de ça, parlez de la bête, parlez de la marque de la bête. Parlez de tout ça, ce que l'Apocalypse nous dit. Dites aux frères et sœurs de faire attention, de sortir de la franc-maçonnerie, des maisons mystiques, etc. Parce que nous sommes à la fin. Sinon, ils risquent de se perdre éternellement. Parce qu'il y aura un filtre. Le filtre viendra pour nous diviser, nous séparer. N'est-ce pas? Ceux qui sont de Dieu, ils sont mis de côté. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, mais de l'autre côté. Vous voyez? Donc, il y aura un filtre. C'est le moment de se déterminer. C'est le moment, de renoncer au mal sur toutes ses formes. C'est le moment de reprêter serment devant Dieu. Je renonce au mal sur toutes ses formes. De renoncer à des maisons mystiques, de renoncer aux fétiches, de renoncer à tout ça, aux biens matériels, je ne sais pas quoi. Mais c'est le moment, c'est le deuil maintenant. C'est le moment de rentrer en soi et de chercher Dieu. Dieu, vous le trouverez en vous, n'est-ce pas? Si vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous trouverez Dieu en vous. Dieu est en vous. Hein? Dieu n'est pas dans la franc-maçonnerie, dans les loges, là. Non. Dieu n'est pas dans les maisons mystiques. Non. Dieu est en vous parce que vous êtes le temple de Dieu. Donc, si vous mettez de l'ordre en vous, vous trouverez Dieu. De l'ordre, c'est quoi? Mais c'est arrêter votre mensonge, là. Hein? Arrêtez votre mensonge. On vous dit, Émile vous dit, qui n'est pas un tel, qui n'est pas ceci. Mais arrêtez, laissez ça. C'est pas ça, c'est faux. Hein? Revenez à la vraie. Lisez la Bible. Revenez aux vrais enseignements. Alimentez-vous des choses nobles. De la vérité. Alimentez-vous de la vérité. Et vous verrez que vous allez facilement traverser les épreuves. Mais si vous êtes toujours dans le mensonge, là, hein? Et puis respectez Dieu. Respectez Dieu. Respectez Dieu. C'est pas un ami, Dieu. C'est pas un ami avec qui on joue. Mais c'est Dieu, c'est le Créateur. Donc, ayez la crainte du Créateur. Hein? Ne le défiez pas. Ne le mettez pas devant le fait accompli. Ne le contraignez pas surtout. Mais avec crainte, approchez-vous de lui. Et avec crainte, confessez-vous. Commencez à réparer vous-même d'abord. Parce que demain, ce n'est plus une histoire de couple. Dieu a dit qu'il venait à séparer. Il prendra la femme, il laissera l'homme. Ou il prendra l'homme, il laissera la femme. Ou bien les deux, ils seront laissés. Peut-être dans une famille, il y a seulement l'enfant qui sera pris. Que savez-vous? Mais pourquoi vous ne serez pas pris? Mais à cause des détails. Dieu vous dira, mais vous ne m'avez pas respecté. Mais comment est-ce que je ne vous ai pas respecté? Ah. Voilà comment vous vous comportez. Tac, tac, tac. Disukutia lukaya. Disukutia lukayako. Eh, tia. Eh, ya, ya. Tangu ifuenye. Et tia, je m'arrête ici, hein, frères et sœurs. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. C'est toujours moi, votre humble serviteur. Pas basse, basse, salamale, mouvate, salamale, mouvate, zougane, t'es fait vers le maudit, c'est garrête, avalant, quand zougane, quand zougane, pété, à pika, pénètre, t'en aiguille, mille fois, c'est toi, beau. Moté, ma pembe, molangi, pembe, à konzoulukate, anzouluka, kanayete, tina, souka, mokiri, à pika, pende, natata, naye, qui est mille le fois. C'est y quoi, beau? C'est-y quoi, boe? C'est-y quoi, boe? La voix et la bouche autorisées de l'organisation PH pendant les moments difficiles. On reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. Si n'est pas boe, balinga jamais équipé. Mais si ce n'est pas la vie dans la moutoua quoi, un galam de équipe aussi. Papa Guy est mille fois, c'est-y quoi, boe? Et à la prochaine fois, ben nous allons continuer encore. Le peuple, c'est très important qu'on sache quel est le peuple qui va célébrer 7-7. Vous voyez que c'est pas tout le monde qui va rentrer dans le repos de l'Éternel. Donc ce sont des gens qui seront choisis. Donc battons-nous pour faire partie de ceux-là. Hein? Et puis arrêtons avec les divisions, là, les gens qui parlent, là, je sais pas. Hein? Mais revenons aux vraies choses, n'est-ce pas? Qui élèvent notre esprit et qui nous fait rentrer effectivement dans la deuxième nation. Parce que nous y sommes pas encore. Hein? Il faut vous le dire, ça vous blesse certainement, mais il faut vous dire la vérité. La deuxième nation, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est son corps. Mais lorsque les gens ne prient plus au nom de Jésus, où sont-ils? Mais ils sont sortis eux-mêmes, ils ne sont plus les membres de ce corps-là. Je ne sais pas si les gens imaginent, je ne sais pas. Donc on va revenir sur ça. Bien, merci. Et encore, pardon, si je vous ai blessé, encore, là, pardon. Et soyez dans la paix du Christ et restez dans la paix du Christ, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Dieu, merci.